France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'ouverture demain à Washington de la deuxième phase de négociation pour libérer à terme tous les otages israéliens. Trouver aussi une paix durable dans la bande de Gaza et nous verrons que sur ce dernier point, il y a division entre les Israéliens. 160 000 personnes réunies ce soir à Berlin contre le rapprochement amorcé en Allemagne entre la droite et l'extrême droite. Nous serons à Berlin. En France, nouvelle journée au ralenti vers les stations de la Tarentaise et ça risque de durer encore plusieurs semaines. Un témoignage dans ce journal, 80 ans, jour pour jour, après la libération de la ville de Colmar par les Alliés. Parole ce soir d'un ex-gamin de Colmar. Il a vécu cette libération, il a aujourd'hui 91 ans. En sport, l'équipe de France de tennis s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe Davis. Ce sera en septembre face à la Croatie. Et puis à Los Angeles, dans quelques heures, Beyoncé contre Taylor Swift. Ce seront les Grammy Awards avec aussi, vous l'entendrez, une chanson des Beatles qui pourrait bien être récompensée. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, avec pas mal de brumes au réveil le matin.
Oui, des brumes et brouillards qui seront un petit peu plus tenaces sur la moitié nord, mais qui devraient se dissiper pour laisser passer quelques éclaircies dans l'après-midi.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Ce sera début mars, la fin de la trêve de 6 semaines qui aura permis, en principe, de libérer 33 otages israéliens et 1900 prisonniers palestiniens. Alors le sort des derniers otages dépendra du nouveau cycle de négociations qui débutera demain à Washington. Négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou a décollé ce matin pour les États-Unis. Cette deuxième phase de négociations devra également envisager une fin définitive de cette guerre à Gaza, ce à quoi s'oppose une partie du gouvernement israélien. À Tel Aviv, reportage de nos envoyés spéciaux Valentin Dunat, Jérémy Tuile.
Le repos est de courte durée. Après la libération des otages hier, si le soleil brille au-dessus de Tel Aviv, si certains peuvent profiter des vagues et de la Méditerranée, la diplomatie, la politique n'est jamais très loin. Daniel a tout juste 18 ans.
On se sent très concernés, oui. On veut vraiment que le nouvel accord aboutisse, que chaque otage revienne chez lui. Mais quand vous vivez ici, vous imaginez toujours que tout peut capoter à tout moment. Mais vous devez aussi garder l'espoir. On ne survivrait pas sans ça.
Et l'espoir est incarné par un homme, Donald Trump, qui, selon Edith Oel, la mère d'un otage toujours à Gaza, est la clé de ces négociations.
Le président Trump a beaucoup œuvré pour que les premières négociations aboutissent et j'espère qu'il va continuer à se battre pour les otages et que toutes ces phases du cessez-le-feu aient à leur terme. C'est un élément crucial de ces négociations.
Négociations qui vont donc commencer dans quelques heures. Benjamin Netanyahou doit d'abord rencontrer l'émissaire du président américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, qui a préparé le terrain avec le Qatar et l'Égypte, principaux médiateurs au cours des 15 derniers mois.
Et après ce deuxième cycle, une troisième phase de négociation sera envisagée. Il s'agira alors de reconstruire la bande de Gaza et de trouver un modèle de gouvernance pour cette enclave palestinienne. En Israël, une enquête criminelle est ouverte à l'encontre de Sara Netanyahou, l'épouse du Premier ministre. Auparavant, une députée travailliste avait accusé Madame Netanyahou de subornation de témoins dans un procès pour corruption de son époux. Et tout cela fait suite à une enquête journalistique diffusée à la télévision. Donald Trump, il a reconnu aujourd'hui que les droits de douane qu'il a instaurés vont peut-être faire souffrir les Américains. Mais que cela vaudra tout de même le coup, a-t-il dit, au lendemain des nouveaux tarifs douaniers imposés contre le Canada, le Mexique, la Chine. La Chine qui d'ailleurs porte plainte devant l'OMC et le Canada qui annonce 25% de taxes à partir de mardi sur les importations américaines. Et l'Union européenne, que fait-elle? Eh bien, si elle est effectivement ciblée, comme l'a promis Donald Trump, Bruxelles promet aujourd'hui de riposter avec fermeté à ce qu'elle considère comme une injustice, Elsa Loisson.
Nos relations commerciales avec les États-Unis sont les plus importantes au monde. Les enjeux sont considérables, s'alarme la Commission européenne dans un communiqué de presse envoyé cet après-midi. L'institution appelle à renforcer ses relations commerciales plutôt qu'à attiser les divisions. Et le communiqué de rappeler, les droits de douane créent des perturbations économiques inutiles et alimentent l'inflation. Ils sont préjudiciables à toutes les parties. Une réaction qui était attendue. Il y a quelques jours, le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis, avait rappelé que l'Union européenne était prête à défendre ses intérêts économiques. Une réaction après les multiples sous-entendus de Donald Trump qui répète qu'il imposera des droits de douane à l'Union européenne si les 27 n'augmentent pas leurs achats en gaz et en pétrole américain. Plusieurs députés européens ont d'ores et déjà publiquement appelé à répondre par des droits de douane ciblés contre les États-Unis sur le modèle de ce qui a déjà été imposé il y a quelques mois sur les véhicules électriques chinois.
Elsa Lossoirne à Bruxelles. 160 000 personnes rassemblées aujourd'hui dans le centre de Berlin contre le rapprochement amorcé cette semaine entre la droite traditionnelle de la CDU et l'extrême droite de l'AfD. L'Allemagne est à 3 semaines des élections législatives et cette alliance a brisé un tabou politique car depuis la Deuxième Guerre mondiale, les partis traditionnels allemands ont toujours refusé toute coopération au niveau national avec l'extrême droite. À Berlin, reportage de Nathalie Versieux.
Beaucoup de jeunes, des familles brandissant des affiches contre l'extrême droite, la manifestation organisée par le mouvement Compact s'est déroulée en 2 temps, un cordon sanitaire devant le Reichstag dans l'après-midi, puis dans la soirée, manifestation à la torche des téléphones portables devant le siège de la CDU. Des sociodémocrates au mouvement antifasciste très fort à Berlin, c'est un appel massif qui avait été lancé contre ce qui est considéré comme un flirt dangereux des chrétiens démocrates avec l'extrême droite.
Que le vote de vendredi de la CDU avec l'AfD au Bundestag ait échoué, ça m'a rassuré.
Jamais je n'aurais imaginé que le Parti chrétien démocrate veuille adopter une loi qui est en contradiction avec les principes chrétiens. On ne peut plus rien exclure pour l'avenir, pas même une alliance avec l'extrême droite. C'est pour ça qu'il est important de manifester.
Avec la CDU, ça a toujours été comme ça, qu'ils tentent de pêcher vers l'extrême droite.
En Allemagne, le climat politique est électrique. Jamais un scrutin législatif ne s'était déroulé sous une telle tension.
Nathalie Versieux à Berlin. Sur l'île grecque de Santorin, les écoles resteront fermées demain en raison d'une intense activité sismique dans la région. 200 tremblements de terre de faible magnitude ont été enregistrés ces dernières heures. Une nouvelle journée au ralenti vers les stations de la Tarentaise au lendemain d'un éboulement sur la principale route d'accès, la RN90. Chute de rochers qui a paralysé le trafic. Alors certes, la circulation a pu reprendre, mais cette paralysie risque bien de durer. C'est ce que dit le maire de La Plagne. Il s'appelle Jean-Luc Bock. Il est également président de l'Association nationale des maires de stations de montagne.
On sait que ça va être l'histoire de plusieurs semaines, puisque étant donné l'instabilité du terrain et étant donné les blocs qui sont tombés et ceux qui menacent de tomber, cela va prendre un petit peu de temps, mais la clientèle qui va arriver, qui va partir, peut le faire en toute sécurité. Alors à nous de faire tout ce qu'il faut en termes de communication pour que les personnes qui viennent en vacances d'hiver, les vacances de février, puissent arriver plus tôt ou plus tard, mais que tout le monde ne soit pas concentré dans une période extrêmement courte, puisque habituellement, tout le monde arrivait entre, on va dire, 13h et 19h. C'est simplement ce goulet d'étranglement au niveau de Moutier qui pose problème. La montagne est vivante, hein, tout simplement. On ne peut pas maîtriser l'intégralité des aléas climatiques. Je vous rappelle qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir simplement une blessée légère. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique.
Et puis, un skieur de randonnée est mort cet après-midi dans une avalanche à Bessens. C'est en Savoie, c'est ce que dit nos confrères, c'est ce que disent nos confrères de ici, Pays de Savoie. Une très grosse avalanche, précisent nos confrères. À Redon et dans l'ouest de la France, la décrue entamée durera encore plusieurs jours. Une quarantaine de routes sont aujourd'hui encore coupées et déviées. Les TER entre Rennes et Redon vont pouvoir à nouveau circuler à partir de demain. En politique, pas de débat demain à l'Assemblée pour donner un budget à la France. Le texte passera sans vote par le 49-3. Le Premier ministre se retrouvera donc soumis à la censure mercredi prochain, censure déposée par la France Insoumise. L'avenir de François Bayrou à Matignon est désormais suspendu au vote du RN et du Parti Socialiste, les deux partis n'ayant toujours pas dit s'ils voteront cette censure. C'est un dilemme, reconnaît le PS. Les socialistes qualifiés de traîtres, quoi qu'ils fassent, c'est ce que disait aujourd'hui le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, membre de la commission mixte paritaire.
S'ils veulent trahir les Françaises et les Français, trahir leur programme électoral, ça les regarde, parce qu'ils avaient dit tout et le contraire de tout, mais enfin, que les socialistes en ont l'habitude, surtout qu'on fait réélire François Hollande. Donc, même M. Mélenchon et François Hollande, avec les socialistes, c'est 50 ans de vie politique pour rien et 50 ans de trahison perpétuelle. Il faudrait quand même aussi signaler le ridicule de M. Mélenchon, qui passe sa vie à se faire passer pour un grand stratège, pour le génie des Carpates, et qui a réussi à faire réélire son pire ennemi, François Hollande, qu'il a trahi en 1980, 1990, en 2000, 2010, 2020.
Et même son de cloche. Pourtant, du côté des alliés du PS au sein du nouveau Front Populaire, pour le député insoumis et président de la Commission des Finances à l'Assemblée, Éric Coquerel, soit les socialistes votent la motion de censure, soit ils trahissent leur partenaire de gauche.
Ce que je crois, c'est qu'ils sont dans une espèce de spirale qui, d'une part, consiste à éviter manifestement de voter la motion de censure et que cette spirale leur fait accepter des choses qui sont à l'inverse du programme que nous avons présenté ensemble devant les électeurs et qui, quand même, nous engage devant les électeurs, mais même, j'allais dire, de leurs propres valeurs. Là, aujourd'hui, le Parti socialiste est revenu sur une situation qu'on a connue avec François Hollande, où il a ménagé le système, et à force d'aménager le système, en réalité, il ne faisait que le renforcer. S'ils ne votent pas la censure, moi j'estime qu'ils sont en soutien sans participation au gouvernement Bayrou.
L'insoumis Éric Coquerel, invité de Questions politiques ce midi sur France Inter avec Élodie Fauré. Elle a une également ce soir les dangers des pesticides. Pour l'instant, il n'y a que les agriculteurs qui ont droit à des indemnisations au titre des maladies professionnelles. Et bien voilà que de simples citoyens réclament eux aussi des indemnités quand ils sont victimes de ces poisons. L'an dernier, une première action collective réclamait une indemnisation de l'État. Or, un an après, l'État n'a toujours pas donné suite. Et les plaignants viennent donc de saisir le tribunal administratif. Rémi Brancato.
Exposés aux pesticides, malades ou qui craignent pour leur santé, ils sont une quinzaine à avoir saisi le tribunal administratif la semaine dernière à Paris, car leur lettre à Matignon pour demander une indemnisation est restée sans réponse et leur action a inspiré Yolène Berthaud.
J'avais vu un reportage à la télé, ça m'a glacé le sang parce que je me suis dit, mais je suis dans ce cadre-là.
La retraitée de Loire-Atlantique vit entourée de champs de céréales.
Ces personnes-là ne respectent pas les distances de sécurité et projettent chez moi énormément de pesticides.
Yolène fait donc partie d'un deuxième groupe qui écrira dans quelques jours au ministère. Elle met en avant ses maladies respiratoires notamment et les analyses qui montrent son exposition aux produits chimiques.
J'aimerais bien pouvoir être indemnisée. J'ai fait toutes les démarches possibles et inimaginables. Rien ne bouge quoi. Donc je m'adresse directement à l'État.
Pour Madeleine Babès, l'avocate de ses plaignants, l'État doit indemniser comme il le fait pour les agriculteurs.
C'est tout simplement la reconnaissance de leur statut de victime. Une simple application du principe d'égalité en fin de compte.
Et les demandes affluent sur la plateforme lancée sur Internet par son cabinet.
L'effet de masse est en effet très important. Les personnes qui nous contactent, dont on traite les dossiers, se situent sur tout le territoire français.
Une action qui ne vise pas les agriculteurs, insiste-t-elle, mais bien l'État qui ne protège pas, selon elle, suffisamment les citoyens.
L'influenceur algérien Doualem doit rester encore dans son centre de rétention en Seine-et-Marne. Rétention prolongée de 26 jours. Son recours en justice ayant été rejeté ce dimanche. Ça s'est passé un 2 février, comme aujourd'hui, il y a 80 ans précisément, la libération de Colmar par les troupes alliées le 2 février 1945. Donc, cérémonie du souvenir aujourd'hui, présidée par Emmanuel Macron. Il a fait le déplacement dans la ville du Haut-Rhin, près de la frontière avec l'Allemagne. Écoutez ce grand témoin. Il s'appelle Gérard Welchlin. Il avait 11 ans à la libération de Colmar, moment historique qu'il a vécu dans la cave familiale de la maison de Colmar et le souvenir d'une joie immense quand un voisin est venu annoncer qu'ils étaient libres.
Il y a un voisin qui venait toquer à la porte de la cave et ça a toqué. Levez-vous, ils sont là, nous sommes libres, libération. Et puis c'était la joie totale.
Et vous étiez heureux aussi? Et
certainement. Combien de temps on attendait cette libération de Strasbourg, tout était libéré, sauf Colmar. C'était les Américains qui ont libéré notre quartier. Un moment de répit, un moment de trêve. Les soldats sont entrés dans les maisons, distribuent des chewing-gum et des conserves. Des meat and beans.
C'était quoi ça?
Meat, c'est viande, et beans, c'est haricots. C'était nouveau pour nous.
Gérard Welchlin, 91 ans aujourd'hui, il se remémore donc la libération de Colmar, 80 ans après. Témoignage recueilli chez nos confrères d'ici Alsace.
France Inter, Éric Delvaux.
En Coupe Davis, l'équipe de France s'est qualifiée cet après-midi pour le second tour en remportant un troisième point face aux Brésiliens. Victoire de la paire française, match de double. Composée cette paire française de Pierre Hugerbert et Benjamin Bonzi. Et dans cette équipe de France, on retiendra aussi la victoire hier de Hugo Humbert. Le Messin s'affirme désormais comme le taulier du tennis français, Fabrice Abgral.
C'est le facteur X de l'équipe de France, le joueur sur lequel Paul-Henri Mathieu, le capitaine, peut s'appuyer en toutes circonstances. En Coupe Davis, Hugo Humbert ne déçoit jamais. D'abord parce qu'il aime cette compétition. Ensuite parce que le maillot bleu lui donne un supplément d'âme et décuple sa motivation. Enfin parce qu'il assume sans hésiter son statut de numéro 1 français et à ce titre, il prend systématiquement ses responsabilités comme il l'a fait face au Brésil en battant ce samedi le phénomène João Fonseca, gagnant là le match qu'il ne fallait surtout pas perdre.
J'adore jouer pour la Coupe Davis, j'adore jouer pour le maillot bleu. Il y a un truc en plus quoi, toute l'année tu joues pour toi là, tu joues pour ton équipe, tu joues pour ton pays et c'est quand même différent quoi. Tu es prêt à vraiment tout laisser pour emporter ton point et j'arrive toujours à me mettre dans cet état là, c'est ce que je recherche aussi. J'essaie de me concentrer au maximum pour être, ouais, on va dire, aussi habité. C'est ce que j'aime par-dessus tout. Donc je suis ultra satisfait.
Hugo Humbert sera encore une fois l'atout majeur de l'équipe de France mi-septembre pour le deuxième tour en Croatie. D'ici là, le Messin, 15e mondial, espère intégrer le top 10, ce qui donnera à Hugo Humbert la notoriété et la médiatisation qu'il mérite, mais dont il manque injustement.
Fabrice Abgral, nous partons maintenant en Belgique sur les traces de Tintin en Chine. C'est une exposition au musée Hergé de Louvain-la-Neuve. Alors que sort une version colorisée de l'album original du Lotus Bleu datant de 1936, eh bien cette exposition met aussi en lumière l'amitié entre l'artiste belge et l'artiste chinois Chang Chongjiang, sans qui l'œuvre de Hergé n'aurait pas été la même. Plongeons donc dans cette Chine de Tintin avec notre correspondant en Belgique, Jean-Jacques Herry.
La Chine de Tintin, elle est née d'une amitié lorsqu'en 1934 à Bruxelles, Hergé rencontre Chang Chongjian, un étudiant chinois aux Beaux-Arts, avec qui il va travailler sur son nouvel album, raconte Marc Van Acter, guide pour le musée Hergé.
Chaque dimanche, Chang se rendait au domicile d'Hergé, lui parlait de l'actualité, des événements, de comment les Chinois vivaient l'invasion japonaise. Chang a même offert un livre sur la technique d'apprentissage du dessin en Asie. Hergé a pu s'imprégner de ce trait et le retranscrire dans ses planches.
Et ainsi s'esquisse peu à peu le Lotus Bleu, dont les planches originales en noir et blanc et grand format sont exposées pour la première fois, accompagnées par les photos et les livres qui ont aidé Hergé à dessiner un pays qu'il ne connaissait pas, pour le plus grand bonheur de Bernard.
Le fait de travailler avec Chang, ça lui a permis d'aller plus profond dans un récit plus authentique, plus instruit. Il y a des cases du Lotus Bleu qui sont des réelles estampes. Quand j'étais petit, ça m'a vraiment fait rêver, ça m'a vraiment fait voyager.
Un pari réussi à en croire Guo, étudiante chinoise.
Oui, les Chinois dessinent vraiment comme ça. C'est une œuvre magnifique.
Comme Tintin qui, sur le papier, finit par retrouver Chang au Tibet. Dans la vraie vie, Hergé renouera avec son ami en 1981 à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, sous l'œil des caméras, 45 ans après la sortie du Lotus Bleu. Louvain-la-Neuve, Jean-Jacques Herry, France Inter.
Voilà donc pour cette exposition au musée Hergé de Louvain-la-Neuve en Belgique. Je vous propose de terminer ce journal en musique avec une chanson des Beatles, redécouverte en 1923, Now and Then, enregistrée initialement sous forme de maquette de démo par John Lennon. La version de 2023 a donc été retravaillée avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais pas trop, Paul McCartney ayant précisé que rien n'avait été créé artificiellement. Eh bien, cette chanson revisitée pourrait bien être récompensée la nuit prochaine aux Grammy Awards de Los Angeles. Ce sont les Oscars de la musique, les Beatles donc, nommés pour le meilleur enregistrement de l'année, Loïc Piala.
L'Académie a une règle claire sur l'intelligence artificielle. Elle ne récompense, dit-elle, que des créateurs humains. Et dans le cas de Now and Then, la technologie a seulement permis de dissocier la voix de John Lennon et le son de son piano sur un enregistrement de faible qualité remontant à 1978. Peter Jackson avait utilisé cet outil de mixage d'un nouveau genre dans son documentaire The Beatles, Get Back. Paul McCartney et Ringo Starr sont ensuite retournés en studio pour compléter le morceau. Now and Then est en lice pour la performance rock et surtout le disque de l'année, l'un des quatre prix les plus importants de la soirée. Le premier Grammy des Beatles était en 1965, celui du meilleur nouvel artiste. 6 autres ont suivi, le dernier en 1997, bien après la séparation du groupe, pour la chanson « Free as a Bird ». Le succès de Now and Then et un éventuel Grammy interroge toutefois le Los Angeles Times. Le morceau annonce-t-il le déferlement d'autres projets perdus ou imparfaits que l'intelligence artificielle aidera à faire sortir de l'ombre ? À Los Angeles, Loïc Pierre pour France Inter.
Les Beatles qui avaient remporté leur premier award il y a 60 ans, révélation de l'année en 1965. C'était donc Loïc Piala à Los Angeles. Le temps.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Une journée calme pour démarrer la semaine demain.
Oui, aucune perturbation à l'horizon, mais on aura quand même pas mal de grisailles, de brumes, voire de brouillards givrants qui seront nombreux le matin sur la moitié nord, avec de faibles gelées, on va y venir. Le soleil, lui, sera déjà présent le matin en montagne et près de la Méditerranée, avec des gelées, je vous le disais, qui seront nombreuses encore demain matin et une moyenne qui ira de moins 4 à 9 degrés du nord au sud.
Et les grisailles vont avoir du mal à se dissiper dans l'après-midi.
Oui, les modèles, vous savez, ce sont les gros ordinateurs qui prévoient le temps ne sont pas encore tout à fait d'accord sur le scénario final. Mais ce qui se profile pour l'instant, c'est la dissipation difficile des grisailles sur le nord du pays, avec des éclaircies aléatoires. Alors que pour la moitié sud, là, ce sera grand soleil demain après-midi, avec des températures qui seront semblables à celles de ce dimanche. 5 à 9 degrés pour la moitié nord, 8 à 13 pour la moitié sud, jusqu'à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse.
C'était les prévisions météo de Céline Dacosta.